session sur le regard du philosophe sur la paternité de Dieu par le Père Marie-Dominique Philippe, première conférence, le 16 juillet 2001 à Saint-Judas.
C'est la dernière journée. Alors, il y aura le cours ce soir à 6 heures. Ce sera un peu le dernier cours. Je n'en ferai pas après le repas. Alors je couperai ce cours en deux. La moitié, la philosophie, pour terminer. On ne termine jamais en philosophie. Il n'y a pas de point final. Le point final en philosophie, c'est la vision béatifique. Comme en théologie, il n'y a pas de... Ce que on essaie en philosophie, c'est de nous donner un sens plus grand de notre finalité, ce pourquoi nous existons. Donner un sens à notre vie. Et comprendre qu'on peut toujours reprendre sa vie. C'est ça qui est extraordinaire, c'est le propre du vivant, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'éternel déjà pour la vie humaine, hein, parce que le crapaud, il vieillit et il meurt. Et après lui, il n'y a que des petits crapauds. Mais lui, il ne reste pas. Tandis que l'homme, il ne termine jamais. La mort n'est qu'un passage. Pas pour le philosophe, la mort, c'est aussi qu'un passage. Parce que l'intelligence humaine ne meurt pas. Elle ne vieillit pas, l'intelligence humaine. Notre corps vieillit. Nos yeux vieillissent. Nos oreilles vieillissent. Notre corps vieillit. Nous n'avons plus la même agilité. Mais notre âme ne vieillit pas. Et même, elle rajeunit tout le temps. Et ça qui est extraordinaire. Parce que creusant davantage et plus profondément, elle rebondit plus. C'est ce que le philosophe Heidegger dit à sa manière. Parce qu'il ne connaît pas parfaitement la finalité. Alors il prend ça un peu un exemple. Il dit que c'est comme quand on coule dans l'eau et qu'on touche le fond, on donne un bon coup de pied et on remonte. Et c'est quelque chose de vrai. Dans la vie, on a une possibilité de remonter tout le temps, de tout le temps se rajeunir. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est le propre de l'intelligence et de l'amour qui suit l'intelligence. Alors, ce que nous avions vu hier très rapidement, c'est un problème énorme, ce problème-là, au plan philosophique. Le problème du mal. Dieu Père, Père de mon âme, Père de mon intelligence, Père de mon cœur, infiniment bon, cependant, me laisse ici-bas, dans un lieu d'épreuve. Le philosophe considère que la Terre est une épreuve de diverses façons, mais c'est une épreuve. Dieu permet des luttes, permet des échecs pour que nous rebondissions davantage. Chaque fois que Dieu permet un mal apparent, un ennemi qui nous abat, qui semble vraiment casser notre vie. Quelqu'un qu'on avait cru bon et qu'en réalité n'est pas celui auquel on aurait pu s'appuyer et qui nous laisse tomber. Un mal qui touche notre cœur, qui nous blesse. Chaque fois que Dieu permet ça, c'est toujours pour un bien plus grand, qu'on ne voit pas toujours, hein, qu'on ne voit pas toujours, mais on en est sûr. Et c'est ça qui nous empêche de désespérer. On est sûr que Dieu a permis ça pour quelque chose de plus grand. Nous avions besoin de cela, de cette taille du Père. Nous avions besoin de ça pour rebondir, repartir dans un sens différent. Au moment où ça arrive, et même quelquefois plusieurs années après, on ne voit pas, on est meurtri. Et on risque de regarder cette blessure et d'être fixé sur elle, et d'être immobilisé par elle. Et le mal qui nous est fait, il ne faut pas s'y arrêter. Et c'est là la difficulté, c'est de retrouver tout de suite un mobile de vie, une finalité, un but suffisant pour rebondir. Chrétiennement, on sait qu'on a la grâce et qu'elle nous est promise. La souffrance est transformée dans le christianisme parce qu'elle nous permet très souvent de rejoindre Jésus crucifié. Mais au plan philosophique, c'est beaucoup plus difficile. Il faut, à ce moment-là, avoir suffisamment d'intelligence et de cœur pour tout de suite trouver une nouvelle orientation. Il y a une blessure qui a arrêté une petite mort. Toute blessure est une petite mort. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas de blessure. Et toutes les blessures de notre vie, c'est des petites morts. Et ces petites morts doivent être dépassées par une nouvelle vitalité, une nouvelle orientation plus profonde. Et à ce moment-là, il faut trouver les moyens, ceux qui peuvent nous aider à faire ce pas, à dépasser cet obstacle, ce mur. C'est sûr, et c'est une évidence que la souffrance, souffrance physique, tristesse du cœur et de l'âme, souffrance beaucoup plus intérieure qui nous blesse et quelquefois nous met dans un état telle souffrance qu'on n'arrive plus à bouger. On est comme immobilisé. Toutes ces souffrances doivent être dépassées parce que l'intelligence et le cœur ne peuvent pas être écrasés par les hommes qui sont autour de nous. L'intelligence est en relation, et peut-être en relation directe avec Dieu, en attente directe. Et le cœur humain, par l'adoration, est aussi en contact avec Dieu. Elle attend le secours de Dieu. Et il y a la possibilité de repartir. Et au point de vue chrétien, c'est assumé par notre lien avec Jésus. Il ne faut jamais garder pour soi une blessure. Parce que quand on la garde pour soi, on l'enferme sur nous-mêmes. Il faut trouver un ami, quelqu'un que la Providence met sur notre route, qui nous permet de dire nos blessures. Et les dire, c'est les objectiver pour nous déjà. C'est déjà le signe d'une guérison possible. Et les disant à quelqu'un qui nous aime, on peut s'appuyer sur lui et avec lui faire ce passage d'une nouvelle orientation. Le philosophe doit être attentif à cette conduite paternelle de Dieu sur nous qui permet le mal pour un plus grand bien. Toujours. Dieu permet le mal pour sauvegarder notre liberté. Si Dieu ne permettait pas le mal, il n'y aurait plus d'amour libre. Il n'y aurait plus d'amour. Alors, Dieu veut garder en nous cet amour libre. Et là, nous touchons un sujet qui pourrait se développer longuement, et ce serait très intéressant parce que ce serait les rapports de la psychologie et de la philosophie. Et actuellement, c'est sûrement très utile de voir ça, parce que la psychologie prend tout. Or, le vrai remède, c'est de découvrir ce pourquoi nous sommes faits, la finalité. Et la psychologie ne nous le donne pas. Elle essaie d'expliquer les blessures, d'expliquer la mémoire du corps, comment cette demeure enfoncée dans notre corps, mais elle ne nous donne pas le vrai remède qui est spirituel, qui est l'au-delà, qui en définitive est Dieu. C'est que Dieu est Père. Et quand on est blessé, on a absolument besoin d'avoir un Père. Or, notre Père, selon la terre, est limité. Il nous comprend mal. Il ne peut pas nous aider dans ce qu'il y a de plus profond en nous. Dieu le peut. Il est Père. Et il est Père tout spécialement pour ceux qui sont blessés. pour nous faire comprendre que s'il a permis cette blessure, c'est pour quelque chose de plus profond. Il y a un exemple très étonnant dans l'Écriture de ça, que le philosophe peut très bien prendre, hein, puisque l'Écriture est intelligente, puisque c'est de Dieu. Cet exemple est d'Agar, qui a eu l'esclave, qui a eu d'Abraham un fils, Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Abraham, mais de la servante. Et Sarah, la véritable épouse de Sarah, d'Abraham, était stérile. Et c'est pour ça qu'Abraham a dû demander à Sarah, selon les mœurs du temps, ça nous paraît curieux pour nous, pour notre morale chrétienne, mais du temps d'Abraham, c'était normal. Dieu permet à Abraham d'avoir une première descendance par Ismaël. Mais la vraie descendance d'Abraham, ce sera de la femme libre, son épouse, de Sarah, Isaac. Alors on a cette chose extraordinaire qui nous est montrée, la jalousie de Sarah. Elle ne peut pas supporter Ismaël. Elle a peur qu'Ismaël domine, il est plus âgé, sur Isaac. Alors elle veut à tout prix qu'il soit chassé. Abraham est le père des deux. Et il a le cœur brisé de renvoyer sa servante et de renvoyer Ismaël. Mais il doit le faire. C'est très curieux. Dieu a l'air de donner raison à Sarah. Il y a des choses comme ça qu'il faut dans l'Écriture où on dit qu'on ne comprend pas. C'est beaucoup les mœurs du temps. Jésus nous apporte une morale bien plus pure, très pure, très exigeante, parce qu'il nous donne un amour beaucoup plus profond. La morale chrétienne ne peut être vécue que dans un très grand amour pour Jésus. Pour Marie. Autrement, c'est impossible. Et avec Abraham, on est tout à fait au début, hein, du peuple d'Israël, d'attente du Christ. C'est pour ça que c'est si intéressant, la vie d'Abraham. Parce que ça nous montre la conduite paternelle de Dieu sur Abraham. Et qu'est-ce que c'est qu'une conduite paternelle? Nous, nous prenons tout de suite une loi, et alors au point de vue de la loi, on ne comprend pas. Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, parce que la loi fait comprendre certains faits, mais elle est loin de nous faire comprendre tout. Elle est très limitée. Alors on voit Sarah obligée de quitter Abraham, partir dans le désert, et l'enfant qui pleure parce qu'il n'a plus d'eau pour boire. Il meurt de soif. Et Sarah s'éloigne parce qu'elle ne peut plus entendre son enfant qui pleure. Alors, à ce moment-là, Dieu entend le cri. Vous voyez, c'est dans les situations limites. C'est très curieux. Dieu nous éprouve. Une situation limite. Dieu est là. Il a vu les pleurs de Sarah. Et il la soutient. Et dès que Sarah ne peut plus écouter l'enfant, Dieu est là. Il se penche. Et il montre à Sarah qu'il y avait un puits qui était là et que Sarah n'avait pas vu. À cause de sa souffrance. La souffrance très facilement nous aveugle et on reste enfermé dans sa souffrance. Et si Dieu intervient, il nous fait dépasser cette souffrance pour un moyen qu'on n'avait pas vu et qui était tout proche de nous. Le puits. Et Sarah peut alors l'esclave peut alors puiser de l'eau pour son fils et lui donner. Et je crois que c'est très très beau ça, pour montrer que Dieu nous éprouve par amour, hein, et que ça nous semble une situation limite. Il n'y a pas de situation limite pour Dieu. Dieu nous met comme ça dans une situation qui nous paraît limite, mais qui ne l'est pas. On a toujours le recours vers Dieu. Et Dieu est Père, infiniment bon. Dieu a permis cette situation limite. Il s'est tu, mais il est là. Quand nous croyons que c'est terminé, il n'y a pas moyen d'en sortir. Il veut que notre cœur s'ouvre à sa miséricorde, à son amour. Je voudrais vous montrer quelque chose de tout à fait nouveau, mais en succession de tout ce que nous avons vu jusque maintenant. Ce gouvernement de Dieu sur notre intelligence et sur notre cœur. Sur notre cœur et sur notre intelligence. Pour que nous puissions avancer. Dieu permet à notre intelligence, parce qu'il est Père, et ça fait partie de sa paternité sur notre intelligence, de pouvoir, dès que nous l'avons découvert comme Père, dès que nous avons découvert que notre première coopération avec Dieu comme Père était cette recherche de la vérité, il y a cette coopération avec Dieu où Dieu éveille notre intelligence. Et Dieu nous apprend en Père à nous servir de tout ce que nous découvrons par nous-mêmes, toute notre recherche philosophique, elle plaît à Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Notre recherche de la vérité plaît à Dieu. Notre recherche philosophique plaît à Dieu. Notre recherche métaphysique plaît à Dieu. Et c'est pour cela que si nous découvrons l'existence de Dieu, si nous découvrons que Dieu, dans son gouvernement sur nous, nous gouverne comme un père, nous demandant de coopérer avec lui pour que notre intelligence se développe. Dieu nous permet d'avoir un regard nouveau à partir de lui sur tout ce que nous avons étudié, tout ce que nous avons connu. Et c'est ce que j'appelle un regard de sagesse. Dieu veut que notre coopération avec lui aille jusque-là, que nous ayons un regard de sagesse sur tout ce que nous avons déjà fait. C'est merveilleux, du reste, parce que nous pouvons par là récupérer en philosophie tout ce qu'il y a de grand dans le néoplatonisme. Platon, Plotin, et dans notre monde moderne aujourd'hui, et la phénoménologie, il y a des choses belles. Ils sont dans l'erreur, mais ils sont sincères. Quelqu'un comme Lévinas, que j'ai bien connu à Fribourg, était un juif croyant, dans une très grande sincérité, et il avait une philosophie de phénoménologue, alors qu'il avait un cœur qui était beaucoup plus grand que sa méthode philosophique. C'était même très curieux. On sentait que sa philosophie, à la place d'être quelque chose qui l'aide, était quelque chose qui l'emprisonnait. Sa méthode phénoménologique l'emprisonnait. On avait envie de dire, mais laissez tomber cette méthode et écoutez plus votre cœur qui est en relation avec Dieu. Écoutez plus votre intelligence qui est en relation avec Dieu. Et c'est vrai, la méthode phénoménologique est une méthode très intéressante, mais une prison dorée. Vous ne pouvez regarder que ce qui est connu, ce qui est aimé. La réalité est toujours vue à travers ce qui est connu et ce qui est aimé. Or, la réalité est plus grande que ce qui est connu, ce qui est aimé. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien ce que je vous dis. Au plan surnaturel, c'est très visible. J'ai toujours remarqué que la très sainte Vierge, parce que Marie est très intelligente, hein, vous verrez ça au ciel, il vaut mieux le voir déjà maintenant, elle est très intelligente. Elle a une intelligence très lumineuse. La petite fille Marie, à l'Annonciation. Elle n'est pas une petite fille. Elle a sans doute 17 ans, 18 ans, 19 ans. Elle a une petite visite. Une visite qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait pas l'habitude de la voir. Elle est toute troubleuse. Vous savez, quand dans notre vie, un ange vient nous trouver, on est troublé, hein, c'est quelque chose. Elle écoute. Et l'ange lui transmet. Parce que je suis sûr que ça a été gardé d'une façon très nette, ce passage de l'écriture de Saint-Luc de l'Annonciation. C'est magnifique. La rencontre. Une audience avec l'ange. Et par l'ange, avec le Père. L'ange, le Père envoie sa secrétaire angélique. Ou son secrétaire angélique, puisque l'ange est aussi bien féminin que masculin. Il a cet avantage, l'homme. Toutes les qualités féminines et toutes les qualités masculines, il les a. Donc, secrétaire, super secrétaire du Père. L'ange envoie cette super secrétaire à Marie. Et le Père fait ça pour que Marie soit plus libre. Le Père sait bien, très bien, que Marie, étant donné sa sensibilité religieuse, si le Père apparaissait directement à Marie, comme il est apparu à Abraham, la pauvre petite Marie serait à plat ventre. Elle se tairait. Tandis qu'avec l'ange, ça va. Marie est la reine des anges. Elle ne le sait pas, mais elle est la reine des anges. Donc, il n'est pas intimidé devant l'ange. Mais l'ange est envoyé par le Père. Et c'est ça qui intimide Marie. Marie, écoute. Nous aurions été à la place de Marie. Parce que nous sommes tous très transformés par la féminologie. Même si nous disons que nous sommes aristotéliciens, que nous sommes thomistes, l'air ambiant est féminologue. On respire ça. On est tous un peu hégéliens. Tous. Qu'est-ce qu'on aurait répondu à la place de la Sainte Vierge? Oui, j'accepte d'être la mère de Dieu. On a répondu en comprenant, en répondant par rapport à ce qu'on comprend, par rapport au vécu, ce qu'on comprend. Et Marie dit, oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ne ramène pas à elle ce qu'elle a compris, mais ce que Dieu lui a dit. Elle adhère à ce que Dieu lui a dit. Donc, ça reste ouvert. Dans ce que Dieu lui a dit, il y a plus que ce que Marie a compris. C'est ça l'objectivité. C'est de respecter parfaitement la parole de Dieu. La parole de Dieu me dépasse complètement. Et je suis tenté, vous voyez les exégètes d'aujourd'hui, hein, il ferait bien de se mettre à l'école de Marie. Il voit ce qu'ils comprennent. Et on a l'impression que le dialogue avec Dieu, c'est ce qu'ils ont compris. Alors quand on est en dialogue avec quelqu'un de plus grand que nous, on respecte tout cela. On respecte qu'il est plus grand que nous. Et on dit oui. J'accepte tout ce que vous m'avez dit, comme vous me l'avez dit, et non pas j'accepte ce que j'ai compris. La fibulagie ramène tout à ce qu'on a compris. Alors vous voyez, au terme, on n'agrandit plus, on ne peut plus progresser. On reste avec ce bagage, ce qu'on a compris. Alors on ajoute un petit bagage en plus, ce qu'on a compris, ce qu'on a compris. C'est autrement plus grand de dire oui, selon ta parole. En face de la parole de Dieu, on devrait être comme ça. Et on devrait être comme ça en face de tous ceux que nous aimons. Et de tous ceux avec qui nous parlons, j'accepte ce que tu as dit. Je le comprends peut-être très mal, alors tu me corrigeras. J'accepte ce que tu as dit. C'est la différence. Oui, Marie est aristotélicienne. Et j'aime bien ça, dire que elle est un respect étonnant de la parole de l'autre. J'ai jamais pu dire ça à Lévinas, mais j'avais envie de lui dire. Soyez comme Marie. Je sais bien qu'il était juif, alors Saint-Luc, c'était pas commode. Mais je crois qu'il aurait compris. Parce qu'il y avait en lui un tel désir d'être dans la vérité. Or, on est dans la vérité que si on respecte ce que l'autre nous dit comme il nous le dit, et non pas comme on l'a compris. Voyez, toutes les difficultés dans le dialogue avec des personnes très intelligentes. Et plus elles sont intelligentes, plus c'est difficile. Des intellectuels, quoi. C'est que le dialogue, c'est un dialogue de sourds. C'est ce qu'on a compris et on répond à ce qu'on a compris. Et on ne répond pas à ce que l'autre nous dit, comme il nous le dit. Parce qu'on est tellement habitué de vivre uniquement avec ce qu'on a compris, alors qu'on devrait vivre avec l'ami, en respectant ce qu'il dit. Ce que j'ai compris de ce qu'il dit et ce que je peux comprendre de ce qu'il dit et aller plus loin de ce que je dis, alors c'est une chose merveilleuse, parce que Dieu n'est pas féminologue, c'est le seul qui aurait le droit de l'être. C'est-à-dire, ce que Dieu a compris, c'est la vérité. Mais Dieu nous parle, alors il sait. Que ne me font pas dire ça. Ce que nous avons compris, c'est la vérité. Ce que nous avons compris et que nous disons, c'est peut-être la sincérité. Nous répétons exactement ce que nous avons compris. Nous sommes sincères. Mais la sincérité n'est pas la vérité. Être sincère, c'est dire ce qu'on a compris. La vérité, c'est dire ce que l'autre a dit, et c'est que l'autre désire nous faire comprendre, désire nous communiquer, et cet autre, c'est une personne, c'est un envoyé, c'est un messager, ou cet autre, c'est tout simplement une réalité. Dieu nous permet Dieu notre Père, Père notre intelligence. Au plan philosophique, hein, Dieu nous permet, une fois que nous avons découvert ce qu'il est, qu'il existe, et que nous avons découvert ce qu'il est, nous pouvons juger de toutes les autres réalités dans la lumière de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons poser un jugement de sagesse. Ça ne se fait plus du tout aujourd'hui. La sagesse, on ignore ce qu'elle est. Alors que, vous vous souvenez, au début de cette session, je vous ai rappelé ce texte de la sagesse. On vend tout pour la sagesse. C'est tellement grand. La sagesse, c'est d'essayer de tout regarder dans la lumière de Dieu. Et on reprend tout. Ce premier regard que j'ai de la sagesse, c'est de voir que je suis créé par Dieu et de voir qu'en Dieu, être et vie ne fait qu'un. La vie de Dieu, c'est son être. La vie de Dieu, c'est son intelligence, sa connaissance. Sa connaissance est substantielle. En lui, être et vie ne font qu'un. Premier jugement de sagesse, en toute créature, et je suis dedans, hein, en toute créature, la vie et l'être sont distinctes. C'est très important, ça. Savoir que mon être n'est pas ma vie. Ça demande une très grande purification de regard, ça. Parce qu'au fond, dans la phénoménologie, on identifie être et vie. C'est sûr que Hegel ne pourrait pas dire que pour lui, la contemplation, c'est sa contemplation. Il ne peut dire ça que parce que il est convaincu que son être, c'est sa vie. C'est sa vie, c'est-à-dire sa vie intellectuelle, son intelligence. Hegel est premier dans l'être par son intelligence. Et il est donc Dieu. Seulement en Dieu, être et vie sont la même chose. C'est très important, ça. Dans le monde d'aujourd'hui, toute l'erreur de la philosophie athée, de toutes les philosophies athées, sont exprimées directement par Feuerbach. Il montre que tout ce que nous disons de Dieu, on devrait le dire de soi. Et donc, il montre que l'homme est libre. Si l'homme est libre, il est autonome. Il a une autonomie parfaite. C'est vrai, si l'homme est libre, il est premier. Dans son acte de liberté, il est premier. Et donc, il ne peut pas être créé. puisque être créé, c'est dépendre d'un autre. C'est qu'un autre est avant nous. Et donc, nous sommes dépendants. Et donc, il y a une contradiction. Or, nous avons l'expérience de notre liberté et nous n'avons pas l'expérience de la création. On nous a bourré le crâne. Le christianisme nous a bourré le crâne en disant que nous étions créés. Alors c'est tout à fait faux. Nous ne sommes pas créés, nous sommes libres. Si nous sommes libres, nous ne pouvons pas être créés. Oui, c'est pas bête, hein. C'est terrible. Il identifie sa liberté et son être. Il identifie sa vie spirituelle. Il est vraiment libre, oui. Il l'identifie avec son être. Évidemment, en face de la mort, c'est Rome de vérité. Il serait bien obligé de dire oh, « ma liberté, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Alors, la liberté, elle est limitée. Et tu mourras. Tu mourras en dehors de ta liberté. Quand tu vois quelqu'un mourir, tu ne lui dis pas « Si tu veux ne pas mourir, tu ne mourras pas. » Espèce d'imbécile. À dire à quelqu'un qui est moribond en face de... Mais, et un peu plus de volonté, un peu plus de liberté. Non. Il est obligé de reconnaître que sa liberté est liberté. Et je l'ai cette expérience constante quand je suis handicapé. Je vais trouver un médecin quand même, hein. Quand je suis handicapé psychologiquement, je vais trouver un psychologue, je suis handicapé. Et le médecin essaiera de nous guérir, oui, pendant un certain temps, ne remuez plus votre bras. Hein. Oui, mais je suis libre. Je suis libre. Et le corps est là. Et le corps limite votre liberté. Platon a dit. Le corps est le tombeau de l'âme. Oh là là! Quand je vois le Saint-Père, avec la liberté qu'il a de penser, et son pauvre corps, malade, je comprends, son corps est le tombeau de son âme. Mais le Saint-Père accepte, parce que sa liberté, c'est sa vie, mais ce n'est pas son être. Son être dépend de Dieu. Il est une créature dans son être. Il est relatif à un autre. Et dans sa liberté, il n'est pas relatif à un autre. Il est libre. Et il pose les actes de liberté qu'il désire poser. C'est tout simple, ça paraît tellement, tellement évident, ça. Quand on a l'expérience de quelqu'un qu'on aime et qui est mort, on a l'expérience directe que la vie n'est pas notre être. C'est bien évident. C'est une expérience ultime, la mort. J'en ai pas l'expérience, mais j'ai l'expérience de la mort de mes amis. Et l'expérience de la mort de mes amis m'a montré ça avec acuité, Et j'ai l'expérience de ça constante dans mon corps. Mon corps n'est pas ma vie. Il manifeste ma vie. Il manifeste ma vie. Mais il n'est pas ma vie. Il manifeste les limites de ma vie. Je vis. Il manifeste les limites de ma vie. Alors que profondément dans ma vie spirituelle, dans ma vie d'intelligence et de volonté, je ne vieillis pas. La vieillesse, l'expérience de la vieillesse, c'est la vie. Et mon être spirituel, il vient de Dieu. Il ne vieillit pas. En tant que relatif à Dieu, je ne vieillis pas. Ah, ça, c'est merveilleux, ça. En tant que relatif à Dieu, je ne vieillis pas. Je suis en dehors. En tant que créature, ayant un certain capital de vie, je vieillis. Il y a de multiples expériences constantes. Mais voyez, ce qui est merveilleux, c'est quand, dans ce jugement de sagesse, je vois en Dieu, être et vie ne font qu'un. Donc, je vois la malice du démon, c'est de faire croire à l'homme, dans sa philosophie, que son être et sa vie ne font qu'un. Il se met à la place de Dieu. Et s'il se met à la place de Dieu, Dieu n'existe pas, il est seul à exister. Et c'est la grossièreté de cette confusion qui était répétée dans toutes les formes d'athéisme. Vous retrouvez cette erreur fondamentale. Vous voyez, le jugement de sagesse nous fait comprendre que nous sommes créés et nous respectons cette dépendance et nous voyons les limites de notre liberté. Nous sommes vraiment libres, mais nous ne sommes pas totalement libres.